Et c'est parti pour Canal Bulle.
Canal Bulle. On parle de BD dans le mag.
Et romans graphiques aussi. Enfin bon, des bouquins avec beaucoup d'images, quoi.
Canal Bulle.
Ouais, le retour de Canal Bulle après notre long format d'il y a 15 jours, hein, long format consacré au magnifique et sombre Mazzerou de Jules Stromboni qu'on avait reçu dans le studio, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur le site évidemment de Canal Sud, hein, canalsud.net. Retour donc en mode chronique consacrée à une nouveauté. Alors, à chaque fois, hein, comme d'habitude dans cette chronique, j'essaye de vous dégoter un titre musical qui colle au sujet de l'album que je vais chroniquer. Alors, c'était pas évident aujourd'hui parce que l'album en question dont nous allons parler fait rencontrer des univers qui paraissent assez éloignés. Alors, disons qu'il y aurait un peu de ça.
William Frédéric Cody, héros des États-Unis. Il n'avait pas le meilleur fusil que ce fameux Bill Cody. Hey, hey, Bill Cody, Bill Cody du Buffalo Bill.
Ouais, Buffalo Bill par la chanteuse Stone sans son Chardin, une chanson de Gainsbourg hein, qui devait visiblement avoir besoin de payer ses impôts. Alors il y aurait donc un peu de ça et puis il y aurait également un peu de ça.
Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond.
Le Buffalo Bill de Terry.
Ouais, c'est, alors voilà, donc là, un mélange entre les corons de Pierre Bachelet et Buffalo Bill de Stone. Ce seraient les univers qu'on retrouve dans les Gueules Rouges. Titre génial, hein, les Gueules Rouges qui associent les Gueules Noires, évidemment, et les Peaux Rouges. Un album, les Gueules Rouges, qui fait se rencontrer, selon les mots mêmes de son scénariste Jean-Michel Dupont, le Far West et l'univers de Germinal. Donc une rencontre étonnante, inattendue, et qui, même si elle est ici imaginaire, est en fait assez crédible. En fait, elle aurait même été possible cette rencontre, puisque le point de départ du scénario, c'est la tournée en France et en Europe en 1905 du grand cirque de Buffalo Bill, le Buffalo Bill Wild West, véritable blockbuster de l'époque, hein, une époque où le cinéma était évidemment encore balbutiant. Imaginez, hein, 800 acteurs, 750 chevaux, c'était un spectacle gigantesque avec chasse aux bisons et attaque de diligence hein, au programme. Un spectacle qui va véritablement inventer et diffuser très largement la mythologie de l'Ouest américain. Je dis bien inventer parce que imaginez que c'est dans ce spectacle, hein, le Buffalo Bill's Wild West, que va par exemple être popularisée l'image du cow-boy avec son chapeau Stetson. Hein. Les vrais cow-boys en réalité, ils portaient des chapeaux bien moins chers que ça, notamment des sombreros par exemple. Et c'est également ce spectacle qui va populariser l'image de l'Indien à grande coiffe, là, avec tout un tas de plumes, une coiffe qui était en fait réservée à quelques grandes occasions et chez certains peuples seulement. Voilà. Alors en 1905, cet énorme Barnum, hein, l'énorme Barnum de William Frederick Cody, va visiter, William Frederick Cody, c'est le vrai nom, hein, vous l'avez entendu dans la chanson de Buffalo Bill, hein, cet énorme bonhomme va visiter quelques 105 villes en France, dont Valenciennes, au cœur du pays minier. Et voilà donc le point de départ pour Jean-Michel Dupont, qui est lui-même originaire de Valenciennes, de l'histoire des Gueules Rouges. Alors l'histoire, c'est celle de Gervais, fils de mineur, qui malgré de bons résultats à l'école, et malgré l'insistance de son instituteur auprès de ses parents pour qu'il continue ses études, eh bien Gervais est envoyé à 12 ans à la mine comme galibot, hein, c'est-à-dire les jeunes manœuvres, hein, c'était avant que les jeunes, quand ils n'étaient pas encore assez forts pour être mineurs, étaient employés comme galibots. C'était une situation assez banale hein, pour l'époque. Il faut imaginer que quelques 27% des travailleurs dans les mines, hein, autour des années 1905-1906, avaient entre 13 et 18 ans, donc près du tiers hein, des travailleurs dans les mines.
C'était pas aussi le ce que faisait le personnage de Matsuru qui partait dans les mines
Alors
être
lui,
Galibo?
il partait dans les mines, mais lui, il restait dans le sud, hein, je crois. Et je crois pas qu'il montait jusque dans le nord, dans le Matsuru de Stromboni dont on a parlé il y a 15 jours, effectivement. C'est vrai qu'on reste un peu dans ce milieu de la mine. Alors, dans cette vie qui semble déjà toute tracée, l'arrivée du cirque de Buffalo Bill va représenter pour notre jeune héros, pour le jeune Gervais, un choc incroyable, hein, une rencontre inespérée avec un monde différent, une échappatoire. Fantastique, et c'est surtout sa rencontre avec quelques-uns des Indiens qui composent la troupe du spectacle qui va être pour lui une occasion incroyable de s'ouvrir au monde et à la vie. C'est aussi une ouverture d'ailleurs dans l'histoire qui va passer alors d'un récit social à une bande dessinée d'aventure, ou plutôt qui va mêler les deux de la même manière qu'elle fait se rencontrer le monde du western et le monde minier, car les amis indiens de Gervais vont être accusés de meurtre et donc va s'en suivre évidemment toute une enquête et toute une aventure. Enfin, je vous en dis pas plus, il faut aller lire absolument cet épatant album, signé donc, je vous l'ai dit, de Jean-Michel Dupont, alors un scénariste pas forcément dont le nom est pas forcément encore très connu dans le milieu de la bande dessinée. C'est un ancien journaliste qui a travaillé pour la presse, notamment la presse rock et la presse cinéma, qui s'est mis au scénario il y a tout juste quelques années. Il a signé notamment sous le pseudonyme de J.M. Goon Les Nuits Assassines, et il a surtout signé une biographie emballante de la légende du blues Robert Johnson. C'était Love in Vain, paru en 2014, dessiné par l'excellent Mezzo, auteur notamment des trois tomes du Roi des Mouches, que je vous recommande au passage. Alors c'est ce dernier, Mezzo, qui va recommander à Dupont de contacter pour Les Gueules Rouges Eddie Vaccaro, dessinateur récemment, hein, sur des scénarios d'Aurélien Ducoudray, des albums par exemple Young et Mobutu dans l'espace, mais qui signe ici, selon moi en tout cas, un de ses plus beaux travails, avec un trait plutôt simple, faussement naïf, nous dit Jean-Michel Dupont, ce qui renvoie à l'enfance, hein, et qui colle parfaitement à l'histoire, puisque le héros est un môme, un trait sans fioriture, mais quand même sacrément vivant. Et ici, admirablement servi par le choix de l'aquarelle, magnifique, avec des teintes, celles de l'aquarelle, hein, donc des teintes qui ne sont jamais vives, qui créent des ambiances ocre, brune, sépia, on va dire, pour les scènes en extérieur, en journée, et grise, bleu, noir, évidemment, pour les scènes nocturnes ou souterraines. Alors, vous l'avez compris, Les Gueules Rouges jouent sur plusieurs tableaux, sans, il faut le dire quand même, sans jamais se perdre ou nous perdre. Alors, c'est d'abord un portrait vivant du monde minier. Jean-Michel Dupont s'est beaucoup documenté, puis je vous l'ai dit, c'est un petit gars du Nord. Mais son portrait évite toujours le misérabilisme. Il s'attache notamment à rendre l'humour typique moqueur des mineurs et de leurs familles et de leurs proches, et à redonner une image un peu truculente, joviale de ces milieux ouvriers. Ça n'empêche pas évidemment un engagement politique certain, très juste, avec une bourgeoisie du Nord brocardée et la mise en lumière des conditions de ces exploités, hein, des conditions de vie et de travail de ces exploités, conditions qui sont donc renvoyées à celles des Indiens qui vont occuper la seconde place, on va dire, centrale de cet album. Des Indiens à qui Jean-Michel Dupont conserve quand même une part de mystère. Alors sûrement parce qu'il a envie de garder, comme le petit Gervais, cette fascination pour le mystère de ces hommes venus de loin. Aussi peut-être, en tout cas c'est ce que je me dis, hein, pour ne pas donner à ces personnages des modes de pensée trop occidentaux, hein, des modes de pensée qui ne seraient pas les leurs, et ça c'est tout à son honneur. La rencontre entre ces peuples indigènes d'Amérique et ces travailleurs du charbon pourrait être un peu plaquée, un peu artificielle. Pour moi, il n'en est rien. On retrouve ainsi un parallèle plutôt intéressant entre le massacre de Wounded Knee. Alors Wounded Knee, pardon pour mon accent, hein, massacre qui date du 29 décembre 1890, c'était un massacre dans le Dakota du Sud, entre 150 et 300 Amérindiens de la tribu Lakota Minikunju avaient été tués à l'époque par l'armée américaine. Et on retrouve donc un parallèle entre cette triste événement et la fusillade de fourmis quelques mois plus tard. C'était le 1er mai 1891, la troupe avait mis fin dans le sang à une manifestation manifestation pacifiste dans cette vieille cité industrielle du Nord. Et on retrouve aussi, entre autres moments de rencontre entre ces deux univers, cette citation au cours d'une discussion entre l'un des Sioux, hein, l'un des personnages indiens de l'histoire, White Eagle, et René, mineur anarcho-syndicaliste. White Eagle lui dit « Chez nous, l'homme riche est celui qui produit des biens pour les donner à ceux qui en manquent. S'il en gardait pour lui, s'il les gardait pour lui, il serait déshonoré. Chez vous, non seulement les riches ne partagent rien, mais en plus, c'est grâce au travail des pauvres qu'ils accumulent des biens. » Alors cet album est sorti, très bel album, hein, quelques 115 pages, paru chez Glénat dans la collection Millefeuille. C'est une collection Millefeuille qui est tournée vers des auteurs dits de la nouvelle génération, plutôt tournée vers des jeunes talents, même s'il n'y a aucune exclusivité, avec l'idée d'une forme non pas unique, mais qui s'adapte aux besoins de l'œuvre. Et ici, c'est vrai qu'on a un bel album cartonné avec du papier épais qui met bien en valeur le travail d'aquarelle. Je vous dis quand même un mot de cette collection, parce qu'ils ont sorti pas mal de choses intéressantes, et notamment, je vous conseille la BD documentaire historique Jugé Pétain, signée Philippe Saada et Sébastien Vassan, qui raconte le procès Pétain. Et je vous conseille également, moins remarqué peut-être au moment de sa sortie, l'album Robert Moses, Le Maître Caché de New York. Robert Moses était un des grands urbanistes de New York, et qui a dessiné pour beaucoup la ville de New York telle qu'elle est aujourd'hui. Personnage tout à fait contestable. C'est une bande dessinée signé de Pierre Christin et Olivier Balèze. Voilà, alors la couverture des Gueules Rouges que j'ai sous les yeux, très sobre, très belle, rassemble, nous présente deux hommes, deux gueules hein, pour le coup, qui nous font face, qui se ressemblent beaucoup. Seul finalement le costume, seule la tenue change. Il s'agit d'un mineur et d'un indien, mis tous les deux sur un pied d'égalité, qui nous scrutent d'un regard noir soutenu, fier, et nous invitant, pendant les quelques pages qui vont suivre, à partager leur vie passée pour nourrir nos imaginaires et nos combats d'aujourd'hui.
El blanco vive en su casa de madera con balcón. El negro en rancho de paja en un solo paredón. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas, a los hombres no. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón.
En la mina brille el oro al fondo del socavón. El blanco se lleva todo y al negro deja el dolor.
Y aunque mi amo me mate a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Cuando vuelvo de la mina, cansado del carretón,
encuentro a mi negra triste, abandonada de Dios, y a mis negritos con hambre. Porque esto pregunto yo.
Y aunque mi amo me mate a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas, a los hombres no. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón.
mina brille el oro al fondo del socavón. El blanco se lleva todo y al negro deja el dolor.
Cette chanson nous a fait quitter le nord de la France, mais pas le monde de la mine et pas celui des Amériques non plus, même si c'est plutôt du côté de l'Amérique du Sud que ça se passait. C'était A la Mina No Boy par le groupe Quila Payún, groupe chilien qui s'était exilé après la prise de pouvoir de Pinochet dans les années 70. Allez, pour être tout à fait complet, on va quand même vous dire que Jean-Michel Dupont est en train de préparer un nouvel album avec Mezzo. Après Love in Vain consacré à Robert Johnson, il est en train de nous concocter, ou ils sont en train de nous concocter, un album sur Jimi Hendrix. On a hâte. Allez, une petite brève très courte pour terminer ce Canal Bulle. Alors bah, c'est encore un décès, décidément. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je prépare une brève, c'est pour annoncer un décès dans le monde de la bande dessinée. Quelques semaines après JDM, dont je vous avais parlé il y a 15 jours, un autre nom de l'école de Marcinelle, de l'école liée notamment au journal de Spirou, vient de nous quitter. C'est Pierre Céron. Qui a participé notamment à Natacha, au Scrum Moustache, qui a animé pendant très longtemps les pages du journal Spirou, donc. Et il est connu surtout pour sa série phare, Les Petits Hommes. Alors, bon, et tout ça est un peu daté et un peu vieilli, mais on voulait quand même lui faire un petit clin d'œil. Et si vous voulez vous replonger dans l'univers des Petits Hommes, sachez qu'en 2010, là, il y a quelques années, Dupuis, dans sa collection Patrimoine, avait sorti une première intégrale des années 1967-1970. Les Petits Hommes, donc à mon avis, ces premières années qui sont les plus originales et les plus intéressantes.
Canal Bulle.
Et c'est fini pour la bande dessinée aujourd'hui. On reviendra dans 15 jours, vous parler toujours des nouveautés et de l'actualité du monde de la BD.